Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole dans Hébreux, livre d'Hébreux au chapitre 12. Hébreux 12, 15 à 17. Hébreux 12, 15 à 17. Il est écrit ceci. Hébreux 12, 15 à 17. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ceux qui niaient ni débauchés, ni profanes comme Ésaü, qui pour un plat, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes. Car il ne put amener son père à changer de sentiment. Vous savez, l'Ancien Testament nous présente certains cas sans tout expliquer, et nous retrouvons l'explication dans le Nouveau Testament. Et je pense que même moi, autrefois, jeune, quand j'avais lu l'histoire des aïeux et Jacob, je me disais, mais quand même, c'est dur la sanction sur Ésaü, et ainsi de suite. Et le Nouveau Testament nous dit non, c'était un juste jugement. Donc c'est ce qui est écrit, verset 16, à ceux qui niaient ni débauchés, ni profanes comme Ésaü. Donc on nous demande de veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. Donc, qu'il n'y ait pas de l'amertume dans nos cœurs, parce que ça peut produire des rejetons et nous couper de la grâce de Dieu. Donc, quand on est chrétien, il faut éviter qu'il y ait un point, un sujet de tristesse que tu ne règles pas, parce que comme c'est écrit, ça peut pousser, ça peut produire des rejetons, d'autres poussent qui vont faire qu'aggraver, étendre la situation et nous priver de la grâce de Dieu. Et ça se passe aussi dans le monde, hein. Mais aujourd'hui, nous allons parler plutôt d'Ésaü et de Jacob. Donc, du point 16, du verset 16, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü. Profane comme Ésaü. Qui, pour un plat, pour un repas, pour quelque chose de physique et de temporaire, il a cédé. Il a vendu son droit d'aînesse pour quelque chose qui allait durer qu'une demi-journée, ce repas-là. Un goût qui allait durer que 30 minutes. Mais à cause de cela, il a vendu son droit d'aînesse. Et en lisant ainsi, nous comprenons une chose, que Ésaü à mépriser les choses spirituelles. Il a méprisé ce qui venait de Dieu. Le droit d'aînesse, c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne touche pas physiquement. Lui, il a préféré ce qu'on pouvait toucher physiquement plutôt que ce qui était spirituel, ce qui était qui avait les conséquences qui venaient du monde spirituel, il a négligé cela. Il a préféré plutôt ce qu'on pouvait toucher, ce qui pouvait satisfaire à l'immédiat. C'est comme ça que beaucoup vont chuter, vont s'éloigner de Dieu, parce qu'ils vont préférer ce qui vient de l'immédiat. Est-ce que Ésaü refuser d'être l'aîné. Non, c'est pas ça. C'est juste que un jour, face au fait d'être aîné, face au droit d'aînesse et au plat de lentilles, il a préféré le plat de lentilles. Ce n'est pas qu'il refusait d'être aîné. Nous n'allons pas retourner à l'époque d'Ésaü. Nous parlons pour nous aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, et dans le monde entier, est-ce que les gens refusent Dieu? Tous, non. Il y en a qui refusent clairement. Mais la plupart ne refusent pas Dieu. Regardez toutes les cérémonies d'Oscar, de remise de prix aux chanteurs, aux footballeurs. La plupart des gens vont dire, je remercie d'abord Dieu. Reprenez maintenant leur vie. Regardez leur vie. Ils vont dans les boîtes de nuit. Ils ont des relations extra-conjugales. Ils sont dans les magouilles par rapport à la fiscalité. Mais la plupart de ces joueurs, de ces stars du showbiz, lorsqu'ils reçoivent leur prix, ils disent, je remercie Dieu. J'ai vu même une vidéo même où le petit là, Justin, tous, qui disait, je remercie Dieu, qui parlait de Jésus. Je dis, mais c'est le monde à l'envers, mais c'est ça qui se passe. Tous ces gens-là disent, je remercie Dieu. Et certains font même la précision. Ils citent Jésus carrément. Mais est-ce qu'ils aiment Jésus, le Jésus véritable, qui a donné sa vie à la croix? Le Jésus véritable, qui nous a tant aimés, qu'il a, pour un moment, renoncé à son trône pour venir nous visiter. Est-ce que ces gens-là aiment cette vie-là de renoncer à leur trône pour sauver les autres? Non! C'est des grands patrons. Ils ne s'intéressent pas à ce qui est spirituel. Ils s'intéressent à ce qui est physique. C'est-à-dire, quand ils citent le nom de Jésus comme ça, ils savent qu'ils attirent encore d'autres fans. Ils savent qu'ils plaisent au milieu ambiant. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils citent le nom de Dieu, de Jésus, mais ça plaît au milieu ambiant. Ils ont un résultat direct. Hein, c'est ce que Jésus dit quand il parle de pharisiens en public. Ils prient en public, habillés en tenue religieuse. Ils font de longues prières devant tout le monde avec un air sérieux. Et qu'est-ce que Jésus dit de ces gens-là? Ils ont reçu leur récompense. Quelle est leur récompense? C'est que tout le monde dit, ah, mais ça, c'est vraiment un maître pur. Celui-là, mais c'est, il prie bien. L'autre, on va dire, mais vraiment, il est sérieux. Regarde comment il est habillé. Il est consacré à Dieu. Donc, ils reçoivent des félicitations directes terrestres. Jésus dit, ils sont pas approuvés par Dieu. Toi, quand tu pries, parle à ton Dieu dans le secret. Il t'écoute. Ce n'est pas en affectant un air sérieux devant tout le monde, des airs de quelqu'un qui tient à Dieu publiquement. C'est pas ça qui compte pour Dieu. C'est le fond de ton cœur en relation avec lui qui compte. C'est des gens comme Ésaü. Profane, ça veut dire quoi? Profane, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas intéressé au religieux, au sacré. C'est ça un profane. Quand on dit qu'il y a une tombe qui a été profanée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'humanité, la mort, les tombes sont des choses sacrées. L'homme, tout homme, même l'athée, reconnaît qu'il y a quelque chose de caché, de mystérieux dans la mort et il faut respecter ça. Donc quand quelqu'un fait une profanation d'une tombe, ça veut dire qu'il n'a pas respecté ce qui est invisible, ce qui est sacré, et il s'est comporté avec une tombe comme il se comporterait avec un mur qui garde les piétons par rapport au train qui passe. Là on tague. Donc il se comporte comme ça, alors que la mort c'est quelque chose même chez les païens, chez les athées, de sacré. Donc un profanateur, quelqu'un de profane, c'est quelqu'un qui néglige le spirituel, qui néglige le sacré, qui néglige Dieu. On a traité Ésaü de profane parce qu'il a négligé le droit d'aînesse. Il s'est dit, mais ça va me servir à quoi? Lisons, c'est écrit dans Genèse 25, 27 à 34. C'est ça qui a été le raisonnement d'Ésaü. Ça me sert à quoi le droit de naissance en ce moment où j'ai faim? Il s'est dit, mais moi j'ai faim. Le droit de naissance va me servir à quoi? Là, maintenant j'ai faim. Je veux la nourriture. Il y a des gens qui se disent, mais oui, mais être chrétien, ça va me servir à quoi? Et c'est ce que Jean-Luc Delarue avait dit à l'aide-soignante chrétienne qui lui avait parlé du Seigneur. Jean-Luc Delarue lui a dit, mais est-ce qu'il peut me guérir? Voilà. Ça va me servir à quoi de croire en votre Jésus? Voilà le raisonnement d'Ésaü. Mon droit d'aînesse, ça va me servir à quoi? Genèse 25, 27 à 34. Il est écrit ceci. Ses enfants grandirent, Jacob et Ésaü. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est quoi? C'est quelque chose qui fait de toi l'héritier de ton père. C'est ça le droit d'aînesse. Donc tu es le premier héritier. C'est toi qui reçois la charge de la famille après ton père. C'est ça le droit d'aînesse. Ça veut dire que tu hérites aussi des avantages liés à ton père. Là, Isaac, c'était qui? Le descendant d'Abraham, dont la promesse liée à Abraham est revenue sur Isaac. Et Isaac allait céder ça à son aîné. Automatiquement, Ésaü. Mais, on nous dit, Ésaü a méprisé ça. Il a préféré un plat de lentilles. Quel a été son raisonnement? Ça va me servir à quoi? Je meurs de faim. Non seulement je meurs de faim, mais un jour je vais mourir moi aussi. Ça va me servir à quoi? Le droit d'aînesse. Est-ce que ça va me préserver de la mort? Mais non, le droit d'aînesse, c'était aussi le droit à être sacrificateur de sa famille. À l'époque, il n'y avait pas encore une structure que Moïse va établir plus tard. À l'époque, c'était le père de famille, c'était l'aîné de la famille, voilà, il y avait un chef comme un sacrificateur pour chaque clan, chaque famille. Et donc le droit d'aînesse faisait de toi la personne la plus proche de Dieu pour ta famille. Ésaü a dit, mais oui, c'est très bien tout ça, mais ça ne remplit pas le ventre. Comme dit un peuple, ça ne se mange pas. Le droit d'aînesse, ça ne se mange pas. Voilà le raisonnement d'Ésaü. Et il a raté le droit d'aînesse comme ça. Beaucoup de gens vont rater l'enlèvement. Là, je parle de chrétiens. Ils vont rater l'enlèvement, c'est-à-dire quand Jésus-Christ va venir du ciel pour enlever ses élus, il y en a qui vont rater ça. Parce qu'ils sont comme Ésaü. Ils sont dans le système. Ésaü était dans la famille. Et en plus, il avait la priorité. C'était lui l'aîné. Ils sont dans le système. Mais ils ne s'intéressent pas à ce qui est profond. Ils ne s'intéressent pas à ce qui est spirituel. Jésus ne les intéresse pas vraiment. C'est ce que Jésus donne qui les intéresse. la gloire, les miracles, les postes, la paix religieuse. Tu te dis, je suis chrétien, je prie, j'ai le ticket pour le ciel. C'est ça qui t'intéresse. Mais Jésus lui-même ne t'intéresse pas. Sa simplicité, sa vérité, son amour pour tout le monde, ça t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, c'est, ah oui, mais avec Jésus, j'ai le ticket, j'ai la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est quelque chose qui commence déjà sur terre. Ce n'est pas un ticket pour le ciel. C'est une vie que tu reçois sur terre. Et cette vie-là, c'est la même vie que celle de Christ. C'est une vie qui est appelée à se donner pour les autres. C'est une vie qui est appelée à nous rendre humbles, à nous mettre à la dernière place en tout, à ne pas chercher l'affirmation de sa propre personne, mais à chercher à être juste le reflet de ce que Dieu veut pour nous, l'image parfaite de ce que Dieu a prévu pour nous avant même que nous soyons nés. C'est ça la vie chrétienne. Et les gens pensent que c'est le ticket pour le ciel. Non, c'est une vie. C'est la vie éternelle, c'est une vie, c'est pas un ticket. C'est une vie qu'on dit, quiconque croit en lui reçoive la vie éternelle. On n'a jamais dit que reçoive le ticket. Et beaucoup confondent la vie éternelle à un ticket. C'est pas un ticket. Vous savez, quand j'achète un ticket pour entrer dans un train, je suis le même. Si j'étais malade, je suis malade. Si j'étais un voleur et que je veux utiliser ce train-là pour aller braquer quelque part, je resterai voleur dans le train. Mais j'ai le ticket. Ce ticket-là m'amène en Australie. Mais est-ce que j'ai changé entre-temps pour devenir correct? Non. Je reste voleur. Le ticket, c'est pas la vie éternelle. Il y a une confusion. Lorsqu'on reçoit la vie éternelle, c'est une vie qu'on reçoit en ce moment-là. C'est pas une promesse de plus tard. Jésus a dit, afin que quiconque croit en lui ait, qu'il ait la vie, il l'a, dans le présent. C'est pas quelque chose qui viendra après la mort. C'est quelque chose qu'il a dans le présent. Et c'est la vie de Jésus. C'est l'imitation de Jésus. C'est la copie de Jésus dans la personne. Et toute ta vie va devenir une copie de Jésus. C'est pas le cas de beaucoup. Et c'est au contraire le cas de la majorité. Dans les milieux chrétiens, la majorité n'a pas la vie éternelle, mais pense avoir le ticket pour le ciel. Parce que la vie éternelle, c'est la vie de Christ que tu reçois. Et Paul, à un moment donné, il dit, je cherche à achever en moi les souffrances de Christ. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que les souffrances de Christ n'ont pas été suffisantes. Non, elles ont été suffisantes. Mais comme nous sommes, nous tous, la vie qu'on reçoit, c'est celle de Christ, notre vie ressemblera à Christ, même dans les souffrances. C'est pourquoi il dit, j'achève ma part de souffrance. C'est-à-dire que je suis appelé à souffrir comme lui, et je suis en train d'achever ma part. Ça se fera pour tout le monde. C'est pourquoi notre chrétien avant le temps, David a dit, le malheur atteint souvent le juste. Parce que nous sommes appelés à vivre les souffrances de Christ. La pression qu'il a subie des méchants, nous sommes appelés à vivre ça. La pression qu'il a subie du monde, nous sommes appelés à vivre ça. La pression de Gethsémané, la peur de la mort. Nous sommes appelés à vivre ça. Alors, beaucoup, quand ils vivent ça, ils disent, il y a erreur. Il n'y a pas erreur. Tu as pris la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Jésus. Et tu l'as dès maintenant. Revenons à notre texte. Il est clairement dit, au verset 32, Esaïe répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Sous-entendu, moi je veux du concret. Le droit d'aînesse, c'est quoi? C'est quelque chose comme ça, d'honorifique, de spirituel. C'est vide. Mais ce n'est pas vide. C'est toi qui ne vois pas. les conséquences du droit d'aînesse. Parce que tu es charnel. C'est tout. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien charnel? C'est un chrétien qui a juste changé de maître. Au lieu que ce soit Satan, c'est Dieu, mais qui continue à réfléchir comme les gens du monde. C'est ça un chrétien charnel. Il y a juste le patron qui a changé, semble-t-il, parce que Dieu ne suit pas tout ça, mais c'est quelqu'un qui croit en Dieu, mais qui continue à réfléchir comme quelqu'un du monde et qui veut entraîner Dieu à réfléchir, à lui faire les choses pareilles. C'est notamment ce qu'on retrouve dans l'évangile de prospérité. C'est-à-dire, c'est des gens qui parlent de Jésus dans les champs à tort et à travers, mais qui vendent tout. Ils vendent les CD, les livres, ils vendent les conférences. Tout est vendu, donc tout est obtenu à prix d'argent. Ils sont dans l'évangile de prospérité. C'est des gens qui considèrent que si tu es avec Dieu, tu dois avoir beaucoup d'argent. Si tu es avec Dieu, tu dois avoir beaucoup d'enfants. Qui doivent être bénis, qui doivent être intelligents. Donc c'est des gens qui sont comme Ésaü, qui veulent du concret. Si j'ai Dieu, c'est pour que j'aie un vrai mariage. Si j'ai Dieu, c'est pour que j'aie un bon boulot. Si j'ai Dieu, c'est pour que j'aie beaucoup d'argent. Ben, ils prennent des versets qu'ils dévoient, qu'ils altèrent pour justifier ça. Mais en réalité, bien aimé, la vie éternelle, c'est la vie de Christ. Quand on est chrétien, quand on est footballeur, on va prendre qui comme modèle? Michael Jordan, un basketteur? Non. On va prendre Pelé, Maradona, des gens qui ont fait comme modèle à suivre, à imiter, regarder comment ils travaillaient. Voilà, quand on est judoka, on va prendre Teddy Riner ou bien l'autre David Douillet. Donc pourquoi? Parce que c'est un des grands champions en judo. Tu ne vas pas aller prendre quelqu'un qui joue au foot comme modèle en judo. Mais quand on est chrétien, qui est notre modèle? C'est Salomon. Qui est notre modèle quand on est chrétien? C'est Ésaü. Ah mais non! Notre modèle, c'est qui? C'est Jésus. Est-ce que Jésus a eu plusieurs femmes? Non. Est-ce que Jésus a eu un château sur la terre? Non. Est-ce que Jésus avait des beaux carrosses pour avec des chevaux blancs qui viennent d'Égypte? Des roues en or? Non. Est-ce que Jésus avait des gardes du corps? Non. Bon, maintenant, quand ces gens-là veulent prendre la richesse comme modèle de vie chrétienne, d'où c'est qui leur modèle? Est-ce que Paul était comme les pasteurs d'aujourd'hui qu'on voit là? Avec des fauteuils en or? Est-ce qu'il était comme ça? Non. Mais finalement, ces gens-là, c'est qui leur modèle? Quand ils disent qu'ils sont chrétiens, c'est en fonction de quoi? Chrétien, c'est quelqu'un qui est comme un Christ. C'est comme ça qu'on les a appelés au début chrétiens. C'est-à-dire des gens d'Antioche. C'est à Antioche qu'on les appelle comme ça la première fois. Des gens qui ressemblent à Christ. Est-ce qu'on est contre la richesse? On n'est pas contre la richesse. Mais on dit tout simplement que cela vient de Dieu, pas parce que nous voulons. Pas parce que nous cherchons, parce qu'il est écrit clairement dans 1 Timothée 6:9-11, on nous décourage à aimer les richesses, on nous dit que ceux qui cherchent à s'enrichir tombent dans des pièges et ils finissent mal. C'est écrit. 1 Jean 2:15-16 nous dit, bien aimé, n'aimez point le monde, ni tout ce qu'il y a dans le monde. C'est écrit. Mais que Dieu lui-même nous donne les choses. Nous apprécions, mais nous nous considérons comme des gestionnaires. Nous ne considérons pas que ces choses sont pour nous donner notre, la vie abondante. La vie abondante, c'est Dieu lui-même qui est la vie abondante. Ces choses-là sont des compléments dont on a besoin en tant qu'humain terrestre. Mais Paul dit, pour autant qu'on ait le vêtement et le manger, cela nous suffit. C'est tout. Tant qu'on a le minimum, cela nous suffit. Ce qui est important pour nous, c'est la présence divine, c'est la vie divine. Ces gens-là ont transformé l'évangile. Ils sont comme Ésaü. Ce qui compte, c'est le toucher. C'est les lentilles. Trop de neige, je veux faire quoi avec ça? Il néglige carrément le spirituel. Beaucoup rateront l'enlèvement. Est-ce que c'est parce qu'ils sont pécheurs? Parce qu'ils pêchent plutôt? Non. Ils rateront l'enlèvement parce qu'ils n'apprécient pas la vie de Jésus. Ils apprécient les pouvoirs de Jésus. Ils apprécient le nom de Jésus, mais ils n'apprécient pas la vie. Vous savez, le nom, dans la Bible, ce n'est pas juste un identifiant. Le nom, c'est ce qu'est la personne. Quand Dieu dit « L'Éternel est mon nom », ça ne veut pas dire que c'est un identifiant, comme AXB. Non, ça veut dire qu'il est éternel. C'est ça son nom. Et c'est sa nature. Jésus, ce n'est pas un identifiant. Sinon, on pourrait l'appeler Albert. Pourquoi on ne l'a pas appelé Albert? On l'a appelé Jésus, ça veut dire l'Éternel sauve. Maintenant, toi, tu dis, hey, Jésus, j'aime ce nom-là. Mais quand il faut aider quelqu'un, aïe. Tout ce que tu attends, c'est soit toi à qui on donne. C'est soit toi qu'on aide. Quand il faut donner ce qu'il y a à toi pour les autres, il n'y a pas de Jésus. Mais Jésus, mais tu cites le nom de Jésus, tu pries Jésus. Jésus veut dire l'Éternel sauve. Et donc, beaucoup sont en train de citer le nom de Jésus, mais ils ne seront pas enlevés. Ils n'aiment pas la nature de Christ. Ils n'aiment pas son nom. Ils n'aiment pas son nom. Nous allons lire dans Matthieu 25. Matthieu 25, 1 à 13, ce qui est connu comme étant la parabole des 10 vierges. Matthieu 25, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Voilà, il nous est dit, « Veillez donc. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, soyez total chaque jour. Soyez plein chaque jour. Plein chaque jour de Christ. Plein chaque jour. C'est la vie. Parce que quand on dit, « Je suis sauvé », c'est la vie de Christ. C'est ce que ça veut dire. J'ai la vie de Christ. Mais que cette vie soit réelle chaque jour. Est-ce que ces gens-là, quand on les appelle vierges, ça veut dire quoi bibliquement? Ça veut dire qu'elles étaient considérées comme pures. Mais est-ce qu'elles ont été sauvées là? Non. Un jour, on parlera de cette parabole. Cette parabole symbolise l'enlèvement. Cette parabole nous montre quoi? On n'est pas sauvé parce qu'on est vierge ou pas. On est sauvé parce que on veut de Dieu. On veut de Dieu au point qu'on ne se laisse pas distraire par autre chose. C'est ça qui nous sauve. il est écrit, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Personne ne sera sauvé parce qu'il s'est bien comporté. Personne. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Mais attention, on ne va pas sauver quelqu'un de force. On sauvera ceux qui aiment la vie de Christ. Ceux qui veulent de cette vie, c'est eux qui vont être sauvés. C'est eux qui vont être enlevés. Peut-être les vierges là vont se réveiller et dire, il fallait qu'on choisisse le Seigneur à 100%. Quel est le commandement que le Seigneur nous a laissé? Est-ce qu'on se souvient de ça? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Bien-aimé, c'est ça le commandement. Jésus dit, tous les autres commandements dépendent de celui-là, même celui qui suit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur, il sait que quand il déteste son prochain, ou bien quand il a un problème dans le cœur contre son prochain, il sait que Dieu n'est pas content. Sa relation avec Dieu est abîmée. Alors il va aimer aussi son prochain. Il va aimer son prochain parce qu'il aime tellement Dieu qu'il ne veut pas froisser cette relation-là. Jésus dit, c'est le seul commandement que je vous laisse. C'est le seul. Le jeune homme riche n'a pas été sauvé ce jour-là. Pourquoi? On ne sait pas si plus tard il s'est ressaisi, mais ce jour-là, il n'a pas été sauvé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Parce qu'en matière de loi, il était sans reproche. Par rapport à toutes les lois, tu ne voleras pas, pas de problème. Tu ne prendras pas la femme de ton voisin, pas de problème. Tu ne mentiras pas, pas de problème. Il était correct. Il était vierge. Mais c'était comme une vierge folle. C'est-à-dire des gens qui ne savent pas apprécier les choses spirituelles. C'est ça les fous. Les fous ne savent pas qu'entre leurs mains, ils ne savent pas qu'ils tiennent un billet de banque. Ils peuvent couper ça et brûler pour se faire du feu. Mais c'est un billet de 200 euros. Un fou n'apprécie pas les choses. Un sage, c'est celui qui apprécie les choses. Il se dit, je vais acheter un terrain dans tel endroit, parce que dans 10 ans, je crois que cet endroit-là, on va construire une gare à côté. Cet endroit-là va avoir de la valeur. Aujourd'hui, c'est rien du tout, mais dans 10 ans, ça va avoir de la valeur. Ça, c'est le sage. Le fou, non, non, non. Le fou va, comme on dit, prendre les perles, jeter au pourceau. Des perles! Des perles! C'est à cause de ça que beaucoup n'iront pas avec le Seigneur. Parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur de tout leur cœur. Ils sont dans la religion. C'est une étiquette. Il faut changer aujourd'hui, bien-aimé. Nul ne peut être sauvé parce qu'il ne vole pas, il ne ment pas. Personne n'est sauvé de cette manière-là. On est sauvé parce qu'on a choisi Jésus. On a choisi sa vie et on croit en lui. C'est pas juste croire en lui comme d'un ticket. Non, c'est apprécier ce qu'il est. Le voleur à la croix, comment il a été sauvé? Juste parce qu'il a dit Jésus, sauve-moi. Pas du tout. Il a commencé par aimer la nature de Jésus. Ils étaient en train d'injurier Jésus. Hein. Jésus ne répondait pas. Il a aimé cette nature-là. Il a commencé à manifester cette nature à l'autre voleur pour lui dire, ce qu'on fait est mauvais. Cet homme est correct. Soyons aussi corrects. Il a aimé la nature de Christ. C'est pour ça qu'il a été sauvé. Il ne s'agit pas seulement d'avoir crié, sauve-moi. Mais sauve-moi de quoi? Bien-aimé, sauve-moi de quoi? Beaucoup de gens aujourd'hui crient, sauve-moi d'un sorcier, sauve-moi de la maladie, sauve-moi de la mort. Mais ce qu'il faut dire, c'est sauve-moi du péché et de la nature du mal. C'est ça le vrai salut. Sauve-moi du mal. C'est le mal qui est à l'origine de toute la destruction qu'on voit sur terre. Nous, on vient dire, sauve-moi du tremblement de terre, sauve-moi d'un accident. Non, sauve-moi du mal. C'est la prière que le Seigneur nous a laissée. Délivre-nous du mal. Et seul Jésus peut faire ça. Et délivre-nous du mal, ça veut dire quoi? Moi, ce que je veux, Seigneur, c'est la nature de Dieu. C'est ta nature. Je veux une nature qui n'injurie pas. Je veux une nature qui aime tout le monde. Je veux une nature qui refuse d'être l'esclave de quoi que ce soit, que seul l'esclave de Dieu. Comme Jésus avait dit à Satan, je ne veux pas me prosterner devant toi, on ne se prosterne que devant Dieu seul. On n'adore que Dieu seul. Seigneur, c'est cette nature que je veux. Je veux aimer le ciel plus que tout. C'est cette nature que je veux. Alors Jésus, sauve-moi de ma mauvaise nature pour me donner cette nature-là. C'est ça quand on dit sauve-moi. C'est pas juste qu'on te sorte de quelque part, on te sort d'Égypte. Non, on te sort d'Égypte pour faire de toi quelqu'un destiné à la terre promise. Il y a une transformation qui doit se faire. C'est pas un changement de lieu seulement. C'est une transformation qui se fait. C'est ce que Jésus dit, appelle la naissance d'en haut. Il faut que vous naissiez d'en haut. Regardez, quelque chose d'en haut doit entrer en vous et faire de vous quelqu'un de nouveau. Les vierges sages, des gens qui ne peuvent vivre que quand ils sont bien avec Dieu. Ils se sentent bien que quand ils ont la foi. Ils se sentent bien que quand ils appliquent la parole. Ils se sentent bien que quand ils aiment Dieu et les autres. Ils ont besoin de l'onction du Saint-Esprit pour être bien. C'est ça la vérité. Et c'est pourquoi ils n'ont pas besoin que le marié soit là pour avoir de l'huile. Cette huile-là, c'est leur vie. C'est ce qui est écrit dans Ecclésiaste 9, 8 à 9. Qui en tout temps tu sois oint d'huile. Donc c'est-à-dire c'est la vie de ces personnes-là. La sainteté, c'est la vie de vrais chrétiens. Ils ne font pas ça pour aller au ciel. Un vrai chrétien n'est pas saint pour aller au ciel. Il est saint parce que c'est la vie qu'il a choisie. Il ne cherche pas un ticket. Il a déjà le ciel. Mais le ciel, ça veut dire quoi? C'est la vie de Christ. Il a la vie de Christ. Il ne vit pas saint pour éviter l'enfer. Il vit dans la sainteté parce que c'est la vie qu'il a choisie. Le ticket que beaucoup pensent avoir, ils ne l'ont pas parce que ça n'existe pas ce ticket-là pour aller au ciel. Il n'y a pas de ticket pour aller au ciel. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'une vie. Et il est écrit dans la parole de Dieu, la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. C'est la vie de Christ seul qui peut hériter du royaume de Dieu. Et si tu ne l'as pas reçu, t'as beau confesser son nom, t'as beau ne pas faire le mal, tu seras comme les jeunes hommes riches. Tu seras comme les vierges folles. Tu n'as pas l'huile, tu n'as pas la vie de Christ. Tu as juste l'étiquette. Tu as juste l'extérieur, le physique, comme Ésaü. Qu'est-ce qu'Ésaü a fait de mal? À part le fait de refuser le droit d'aînesse en échange de lentilles. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Son père l'aimait bien. Il était correct. Mais il était attaché au physique. C'est ça le mal d'Ésaü. Il était terrestre. Il n'était pas spirituel. C'est ça le mal. Bien-aimé, je ne suis pas en train de parler du salut définitif. Le salut définitif, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est le problème de Dieu. Dieu seul connaît comment il va sauver les gens. Moi, je suis en train de parler du salut avant de celui définitif. Par exemple, l'enlèvement, c'est une forme de salut. Vous imaginez rater l'enlèvement. C'est retrouver sur la terre sous la domination du diable. Dans les tribulations, dans les complications. Bien-aimé, ça va être très grave. Très, très grave. La plupart d'entre nous vivons en France depuis longtemps ou dans certains pays où on n'a jamais connu de tremblement de terre, on n'a jamais connu de tempête. Tu es né, il y en a qui vont atteindre 60 ans et n'ont jamais vu un tremblement de terre. Ils n'ont jamais vu ça, expérimenté ça, ni une vraie tempête. Allez demander aux gens qui ont déjà vu ça. Ils ont vu l'avant-goût de ce qui va se passer. Vous savez, il est dit dans la parole de Dieu, les gens défailliront. Juste, donc ils voient déjà la tempête, la tornade arriver. En avance, ils tombent évanouis. Sans même que ça arrive vers lui. Tellement ça va être époustouflant. La terre va bouger. Avant la venue du Seigneur, bien-aimé, il est dit les gens vont défaillir. Donc la mort n'est pas encore arrivée chez toi, mais toi-même déjà tu tombes, chaos. Tellement la tempête que tu vois à distance, ou mieux même tu vois seulement à la télé. Toi-même tu cherches à te cacher sous la terre. C'est ce qui va arriver. Mais bien-aimé, on a le choix d'être sous la couverture du Seigneur ou pas. On a le choix. On doit désirer la vie de Christ. On doit désirer les choses spirituelles. On doit préférer ces choses-là. C'est très important, bien-aimé. Nous lisons Colossiens 3, 1 à 3. Que personne ne nous trompe. Seuls les gens qui veulent de la vie de Christ seront préservés. Ce n'est pas juste les gens qui ont l'étiquette. Tous ces gens-là du showbiz, ils citent le nom de Dieu. Ils font même parfois des dons. Mais ça ne veut rien dire. Est-ce qu'ils apprécient la vie de Christ, la simplicité de Christ? Pas du tout. Pas du tout. Ils apprécient pas l'amour de Jésus. Pas du tout. Ce qu'ils apprécient, c'est le nom de Jésus, le succès du nom de Jésus, le pouvoir qu'a le nom de Jésus, la célébrité qu'a le nom de Jésus. C'est ça qu'eux, ils aiment. Mais ils n'aiment pas le Jésus qui a amené Paul en prison et jusqu'à avoir sa tête coupée. Ils n'aiment pas ce Jésus-là. Ils n'aiment pas le Jésus qui a dit « Le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Il n'a pas de maison. » Ils n'aiment pas ce Jésus-là. Vous ne voyez pas bien aimé. Soyons réalistes. Il n'y a plus de missionnaires à notre époque. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans le faux christianisme. Un christianisme lié à l'évangile de prospérité. Même dans les églises où on est contre l'évangile de prospérité, on est quand même influencé. Beaucoup de gens sont quand même influencés, pas parce qu'ils ont écouté une prédication de prospérité, mais parce que c'est naturel l'évangile de prospérité. C'est dans l'homme. L'homme est naturellement comme Ésaü. Il veut toucher. Mais Jacob était spirituel. Il était dans les tentes. Cela veut dire... C'était quelqu'un qui méditait. Quand on dit il restait dans les tentes, c'était quelqu'un qui méditait. C'est ce que ça veut dire. Quand Jésus a dit à Nathanaël, je t'ai vu sous le figuier. C'est-à-dire un endroit où il y a de l'ombre. Pendant un moment, tu es dans un endroit où il y a de l'ombre pour méditer. Jacob était spirituel. Il s'intéressait à Dieu. Il s'intéressait aux choses invisibles. Il s'intéressait à l'éternité. Il s'intéressait à ce que Ésaü trouve zéro. Le droit d'aînesse, lui s'intéressait à ça parce qu'il savait que dans ce droit d'aînesse, il y avait l'héritage d'Abraham que lui allait recevoir. Il s'intéressait à ça. Il s'intéressait à Dieu, aux choses qu'on ne touche pas, mais qui sont éternelles, qui sont plus puissantes que les choses qu'on peut voir. Mais Ésaü a dit, mais oui, mais ça va me faire quoi? Moi, j'ai faim là. Il me faut les lentilles. Voilà. Quand on prêche le véritable Jésus, les gens qui sont dans la prospérité disent « Oh, il est pauvre, il n'a rien du tout. » Les gens disent « Oh, il n'est même pas populaire. » Combien de vues? Et, vous savez, les gens, ils réfléchissent comme ça. Il a combien de vues sur YouTube? 400. Oh, zéro. Nous, on accepte. C'est Jésus que nous aimons, que nous avons choisi. Hein? J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Ils vont tout faire. Nous, on restera avec Jésus. C'est le choix que nous avons fait de suivre les mêmes pas de l'amour de notre vie. Quelqu'un qui donne sa vie pour moi, vous voulez que je réagisse comment? Vous voulez que je l'échange pour un plat de lentilles, pour de l'argent? Lui, il a donné sa vie pour moi. Et moi, je vais venir donner quoi à Jésus? Mes baskets. Je donne ma vie. C'est tout. C'est vie pour vie. Tous ceux qui sont, lui donne la vie, mais toi tu viens juste donner tes dents. C'est zéro, bien-aimé. C'est vie pour vie. C'est ce que Paul voulait dire. Je suis mort. Et c'est Christ qui vit en moi. C'est ce que Paul disait. C'est vie pour vie. Nous lisons dans Colossiens 3, 1, 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Voilà ce que Paul dit. Si vous avez reçu la vie de Christ, cette vie est au ciel. C'est une vie céleste. Si donc vous êtes ressuscité, donc vous avez reçu, donc vous êtes mort à l'ancienne vie. Maintenant, vous êtes ressuscité avec Christ. Quelle vie vous allez mener? Mais c'est la vie de Christ. C'est quelle vie, cette vie de Christ? Vous avez vu Christ ressuscité? Voilà, c'est cette vie-là. Où on est, tu es au-dessus de la terre. Ce n'est plus les choses de la terre qui te guident, mais ce sont les aspirations spirituelles. Mais comment on peut être ressuscité avec Christ et demeurer dans une logique humaine? Comme Ésaü. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, puisque vous êtes maintenant des gens du ciel. On va trouver toujours les chrétiens avec des raisonnements physiques, des raisonnements terrestres, au lieu de s'attacher à la nature de Christ. Et c'est pourquoi il n'y a plus beaucoup de missionnaires. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui est mort au monde. Quand vous prenez des gens comme Jackie Pullinger, Joan Shelter, des gens qui quittent, des femmes en plus, les Edmé Cotier, des gens qui quittent des pays où ils sont bien, Suisse, Angleterre, qui quittent les Amériques, les États-Unis, pour aller vivre avec des tribus au fond de la jungle. Même les gens d'Indonésie n'irait pas là où Joan Shelter était partie. Elle, une Américaine. Donc les gens du pays même, mais qui habitent la capitale, n'oseraient pas aller là-bas. Mais c'est des gens qui ont compris que c'est vie pour vie. Christ a donné sa vie pour moi. Moi aussi, je donne ma vie. Aujourd'hui, tout le monde est dans la sécurité. Ils sont chrétiens. Oui, mais chrétiens avec la sécurité de la terre. Nous, on veut la sécurité du ciel. Parce qu'on est devenu citoyen du ciel. On ne peut pas fixer à Dieu des conditions terrestres pour le servir. On est devenu citoyen du ciel et Jésus s'occupe. Les gens physiques ne peuvent pas comprendre Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre Dieu. Et il y en a beaucoup dans les milieux chrétiens. On reconnaît cela par l'attachement aux choses de la terre. Tout simplement. La façon dont les gens sont attachés à leur maison, à leur voiture, à leur vie qu'ils appellent privée. La façon dont ils sont attachés à ça, on sait qui a reçu Jésus, qui n'a pas reçu. Je suis désolé, ça va faire, ça peut faire du mal, mais c'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui libère. Vous croyez que si Jésus devait suivre la même logique que beaucoup de personnes aujourd'hui, Jésus aurait laissé sa mère voir sa crucifixion? Bien-aimé. Vous savez que Jésus était tout puissant? Il était tout puissant. Il pouvait faire dormir sa mère quelque part par sa puissance. Il l'endort et il se laisse crucifier. Sans qu'elle voie. Mais Dieu nous a laissé vivre ça. Pourquoi? Pour nous montrer que Dieu n'a pas eu pitié de lui-même, Dieu. Il a laissé Marie voir son fils crucifié. Dieu nous a laissé vivre ça. C'est cruel, mais ça montre la cruauté du péché. Et Marie a subi ça. À cause de nos péchés, son fils a souffert à la croix. Et elle a vu ça. On ne lui a pas caché ça. Afin que nous tous nous apprenions que nous passerons par là. Si Dieu n'a pas épargné Marie, Dieu ne nous épargnera pas les souffrances de Christ. Parce que c'est la vie de Christ que nous avons choisie. Mais, dans ces souffrances-là, il y a la gloire de Dieu. Une gloire surnaturelle que ces souffrances-là ne peuvent pas étouffer. Au contraire, que ces souffrances-là parfois multiplient. Et c'est cette gloire-là que nous aimons aussi. Celle qui amène le Fils de Dieu à sauver même quelqu'un à la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est cette gloire-là. Bien-aimés, préférons la vie céleste. Ne soyons pas comme Ésaü. Sinon, on s'opposera même à la volonté de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de vieux chrétiens qui disent à de nouveaux chrétiens, « Oh, nous aussi, quand on était jeunes chrétiens, on avait la foi comme toi, mais tu comprendras plus tard. Oh, » mais comment tu... Bien-aimé, c'est des touristes. C'est des gens qui ont pris leur ticket pour le ciel, ils ont mis dans la poche, et ils ont recommencé une vie normale. Ils se nettoient, c'est-à-dire ils enlèvent leur péché, ils demandent pardon, ils font en sorte de ne pas pécher. Mais c'est juste le ticket qu'ils ont. Ils n'ont pas la vie de Christ. Ils n'ont plus la foi des premiers chrétiens qui ont tout laissé pour suivre le Seigneur. Ils n'ont pas la nature que David a manifestée lorsqu'il fallait tuer Saül. Il a dit, je ne peux pas. C'est loin de l'Éternel. Si Dieu m'a désigné roi, lui-même me mettra au pouvoir. Même David dépasse les chrétiens. Il y en a qui auraient justifié en main, ouin, donc c'était aussi pour le tuer certainement. Mais il a suivi l'intérêt de Dieu, parce que son amour, c'était Dieu. C'est pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Parce que David avait un amour pour Dieu irrépressible. Ce n'était pas son titre qu'il cherchait. Il y a des chrétiens qui disent, je ne suis pas n'importe qui, je suis le fils du roi. Ah oui, mais si tu es le fils du roi, allez, on veut te voir à la croix aussi. On veut te voir répondre au mal par le bien. On veut te voir être attaché aux choses du ciel. C'est la vie éternelle, la vie de Jésus. Il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a qu'une seule. C'est la vie de Jésus qui rend chacun éternel. Et quand on reçoit cette vie, la vie de Christ qu'il a vécue sur terre va se répéter aussi dans nos vies. Depuis sur terre, il y a la victoire qu'on doit vivre. Et c'est ce que Jésus a vécu. Toute une vie sur terre sans péché. Toute une vie sur terre remplie de gloire et de miracles. Mais en même temps, d'opposition, de souffrance. Voilà, on l'a appelé l'homme de douleur. Mais en même temps, c'est la gloire de Dieu manifestée. Il y aura les deux en même temps. Quand Jésus dit, tous ceux qui ont quitté père et mère, femme et enfant pour me suivre, ben ils recevront au centuple père et mère, tout ça. Il a dit, et avec des tribulations. La gloire de Dieu va avec la tribulation pour deux raisons. Un, parce que nous sommes dans le monde, il y a l'opposition du monde de Satan et de Satan. Et deux, pour nous maintenir dans l'humilité. S'il n'y a pas la tribulation, qui peut résister? Il est dit qu'il a mis une charde dans Paul afin que Paul ne tombe pas dans l'orgueil pour toutes les révélations qu'il a reçues. Ce sont des tribulations bienfaisantes parce que ça nous maintient dans le Seigneur. Mais c'est quand même des tribulations. Et nous devons accepter toute la vie du Seigneur. Sa simplicité, son amour, sa paix, sa tranquillité. Il a laissé un trésorier voleur. Mais il a laissé trésorier parce que c'était la volonté de son papa. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, ah, mon mari, là, il m'apporte quoi? Ma femme, là, elle m'apporte quoi? Au lieu de dire, je suis marié, c'est Dieu qui lie les gens, forcément, il y a une bénédiction derrière tout ça. C'est des gens qui sont comme Ésaü. Ils se posent la question, il m'apporte quoi? Vous voyez le raisonnement? elle m'apporte quoi? Au lieu de dire, si Dieu a permis que je l'épouse, il y a une bénédiction dedans que je ne veux pas louper. Je vais lutter jusqu'à ce qu'elle devienne réelle. Non. Comme Ésaü, ça m'apporte quoi? C'est toujours, ça m'apporte quoi? Elle ne fait rien, il ne fait rien, il est incapable de ceci, elle est incapable de cela. Au lieu de dire, c'est le don de Dieu, il y a un trésor dedans. Non, raisonnement charnel, raisonnement physique, c'est ça l'homme charnel. Dieu veut qu'on soit des hommes et des femmes spirituelles, qu'on regarde en esprit les choses. Comprendre que c'est mon mari, c'est ma femme, c'est la bénédiction de Dieu. Je dois prier et rendre cela réel. Mais quand on est dans « ça m'apporte quoi ?» On est comme Ésaü, ça finit mal. C'est mon fils, il m'apporte quoi ? C'est ma mère, c'est mon père, il m'apporte quoi ? C'est fini, on devient comme Ésaü. On apprécie que les choses qu'il nous apporte, le présent physique. On ne veut pas saisir ce que Dieu nous donne en esprit et qui peut se réaliser par la foi. Or, il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors, moi, un jour, Dieu m'a posé la question, tu veux que je te calme définitivement, matériellement, que tu n'aies plus à t'inquiéter, ou tu veux vivre par la foi? Je lui ai dit, je veux vivre par la foi. Ça fait longtemps quand même que je suis dans les choses de Dieu. J'ai vu les conséquences, non? De tout ce qui était calmé définitivement. J'ai vu la conséquence chez Adam. J'ai vu la conséquence chez Salomon. Et je vois la conséquence chez beaucoup de chrétiens qui avaient demandé des choses. Quand on les a calmés définitivement, matériellement, ils se sont éloignés de Dieu. Moi, je ne veux pas m'éloigner de Dieu. Je lui ai dit, je veux continuer à vivre par la foi. Parce que parfois, on est embêté. On dit, Seigneur, il me manque ceci, il me manque cela. Comment tu me laisses comme ça? Et puis un jour, on m'a posé la question clairement. Tu veux que je te calme définitivement côté matériel ou marcher par la foi? Parce qu'il en a la capacité. Attention avec Dieu. Il a enrichi Salomon. Il a la capacité d'enrichir n'importe qui. Comme il veut. Il a la capacité de nous combler physiquement d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer. C'est écrit dans Éphésiens 3:20. Attention à Dieu. Mais, et ton âme? Ton âme? Parce que tout ce qu'il peut te donner sur terre va passer. Mais ton âme? J'ai préféré mon âme. J'ai dit, non, je veux continuer à vivre par la foi. C'est tout. C'est les choses spirituelles que nous devons choisir. Parce qu'elles sont éternelles. Les choses physiques sont temporaires. Lisons Marc 14, 3 à 7. Marc 14, 3 à 7. Quand on est comme Ésaü, on ne peut pas saisir Dieu. Jacob avait saisi Dieu. Il a dit, je veux le droit de l'homme, je veux être de la lignée d'Abraham, d'Isaac. Je veux ça, que ça tombe directement sur moi. Je veux Dieu. On voit que par la suite, il a eu toutes sortes de visions avec Dieu. Il a fonctionné avec Dieu. Même si, vous le savez, non, Jacob n'est pas quelqu'un qui était vraiment honnête dans tout ce qu'il a fait. Mais il était attiré par Dieu. Il était intéressé par Dieu. Dieu prendra les gens qui sont attirés par lui. Il prendra les gens qui sont intéressés par lui, par ce qu'il est. Ils veulent de ça. Ils veulent de ça. Ils veulent de Dieu. Marc 14, 3 à 7. Il est écrit ceci. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. » Et il continue, « Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Et vous savez que j'ai soin toujours de raconter cette histoire-là, parce que c'est l'ordre du Seigneur. On doit raconter cette histoire, parce que cette histoire résume la vraie foi, le vrai attachement au Seigneur. En fait, les autres se disaient, mais tiens, ça apporte quoi de verser tout un parfum sur le Seigneur alors qu'une goutte suffit? C'est quand même un parfum qui coûte cher. On peut verser ça pendant 6 mois. Pourquoi d'un coup verser un parfum qu'on peut utiliser pendant 6 mois? Et encore, on peut juste mettre une goutte et puis, comme Jésus dit qu'il aime les pauvres, il est venu nous sauver. Mais on vend ça? Il faut du concret. Parce que ça, c'était pas du concret. Donc, verser tout un parfum sur le Seigneur, ça, c'est pas du concret, ça. C'est de l'excès. Ça sert à quoi? Et les gens vont te dire, tu es une belle femme comme ça. Tu passes ton temps avec ton Jésus. Au lieu de mettre des gens au monde, tu vas devenir une vieille fille. Ça sert à quoi? Au fait, la question est là. Ça sert à quoi? Parce qu'ils sont terrestres. Ils sont charnels. Ça sert à quoi? Tu vas mettre au monde à 43 ans? Tu vas élever ton enfant vieille? Mais bien-aimé, ce sont des choses que tu sèmes dans l'éternité. Vous savez, la différence avec l'éternité, c'est que quand tu as pris quelque chose d'une manière éternelle, ça ne change plus. Donc si on t'a nommé général dans l'éternité, tu seras toujours général des milliards, des milliards, des milliards, des milliards d'années. Ça, c'est fini. Si tu as semé quelque chose pour Dieu, or bien-aimé, quand on mourra, on ne pourra plus rien faire pour Dieu. Quand on sera au ciel, on ne pourra plus rien faire. Au fait, notre terrain de gloire, c'est la terre. Le terrain sur lequel nous bâtissons notre gloire céleste, c'est la terre. Après la terre, c'est fini. C'est là qu'il faut bâtir une éternité glorieuse. 1 Corinthiens 15, 58 dit que tout ce que nous faisons pour le Seigneur ne sera pas vain. Suis ton amour pour Christ. Vis pour cet amour-là. Ne vis pas selon la logique charnelle. Les raisonnements humains, ça sert à quoi? Voilà le raisonnement humain, ça sert à quoi physiquement? Mais Jésus leur a dit, mais vous n'avez pas vu ce à quoi ça sert. Moi, on n'aura pas l'occasion de m'embaumer, on n'aura pas l'occasion de me parfumer. Vous vous souvenez, non? Quand Jésus est mort, ils l'ont mis dans le tombeau, mais ils n'ont pas eu le temps d'acheter les aromates pour l'embaumer parce que c'était le jour du sabbat. Et donc, le parfum qu'on lui avait mis en ce moment-là était encore agissant. Comme je vous ai dit, c'est un parfum qui coûte très cher. Ça peut, moi, je le dis pas pour vanter la Bible ou bien pour appuyer seulement ce qui est écrit. J'ai déjà vécu ça. Ma mère avait un parfum qui coûtait très, très cher. Il suffisait que tu mettes une goutte sur un vêtement. Même quand on lavait le vêtement, il y avait toujours le parfum. Donc, c'est un parfum qui peut durer. Donc, Jésus, quand cette femme fait ça sur son corps, en réalité, c'était pour jusqu'au tombeau. C'est ça qui allait servir de parfum. C'est ce qu'il dit. Elle fait ça pour ma sépulture. Pour mon corps, parce que vous n'aurez pas le temps de le faire. Mais eux, ils n'ont pas compris en ce moment-là. Ce que toi, tu ne comprends pas, ce que tu trouves inutile, dans le futur, il y a une utilité à cela. Et Dieu seul connaît. Parce que c'est des choses spirituelles. Toi, obéis. Écoute le Saint-Esprit. Suis la parole de Dieu. Choisis d'être homme et femme spirituelle. Et non homme charnel qui dit toujours ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Parce que tu cherches toujours des résultats à toucher. Ce que je fais, ça sert à quoi? Mais non, la question c'est, est-ce que je fais ce que Dieu veut que je fasse? C'est ça plutôt la question. Ce n'est pas ça sert à quoi. Donc là, tu es Ésaü. Tu cherches quelle est l'utilité directe que tu peux voir par tes yeux. Vous savez, le royaume des cieux est fait de sorte que personne ne puisse se glorifier. C'est-à-dire, ce que tu fais, Dieu va faire en sorte que tu n'en vois pas forcément les fruits. Que quelqu'un d'autre vienne récolter les fruits de ça. Comme ça, vous êtes deux au ciel à vous réjouir. Il n'y a personne qui dira, c'est grâce à moi. Mais nous tous, on dira finalement, c'est grâce à Dieu. C'est ce que Paul résume en disant, moi j'ai semé, Apollos a arrosé, mais c'est qui fait croître? C'est Dieu. Paul explique ça. Les choses sont faites ainsi. Alors quand tu raisonnes comme Ésaü, en cherchant, ça va servir à quoi? Tu seras toujours déçu. Et tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu. Certains disent, je vais lui demander pardon. Il va tomber dans l'orgueil en disant, oui, on m'a demandé pardon, ça va servir à quoi? Mais non, demande pardon parce que la Bible veut que tu demandes pardon. Parce que Dieu veut que tu demandes pardon. Si tu commences à dire, mais ça va servir à quoi? Si au moins ça lui faisait prendre conscience, je pourrais facilement demander pardon. Non, demande pardon parce que c'est ça que tu dois faire pour glorifier la vie de Christ qui est en toi. Ta vie, la vie de Christ qui est en toi, veut à ce que tu demandes pardon. Arrêtons avec la logique charnelle. Ça va servir à quoi? Non, obéissons à Dieu. Cette femme a obéi à la voix de Dieu dans son cœur. Je vais tout verser. C'est ce que la voix de Dieu dans son cœur l'intimait. Les gens se sont moqués d'elle. Même les disciples du Seigneur. Même les disciples du Seigneur. Mais tout ça, ça avait été fait pour les sortir d'hommes charnels et les amener à hommes spirituels. De sorte que quand Christ est ressuscité, tout est devenu clair. Aujourd'hui, nous aussi, nous connaissons Christ ressuscité. Soyons spirituels, bien-aimés. Soyons spirituels. Vous connaissez, dans Matthieu 22, nous connaissons la parabole du festin des noces, la parabole des invités. On nous dit quoi? Il y a un roi qui a fait un grand repas et il a invité ces gens le plus proche, les gens avec qui il avait vraiment des relations. C'est ce que Dieu fait chaque jour avec les chrétiens. Je dis bien les chrétiens officiels. Hein? Les gens avec qui il traite souvent dans les cultes, dans les prières, dans les louanges. Les gens qui citent son nom souvent. Il fait une invitation chaque jour, il dit, je veux que tu donnes ta vie. Et les gens répondent, comme les invitations là, que les gens ont reçues, ils disent, ah oui, mais j'ai une affaire à traiter dans tel endroit. Ah oui, j'ai une affaire à traiter dans tel endroit. Ah mais j'ai mon fils à marier là. Les gens ont toutes sortes d'excuses. Quand il s'agit de servir Dieu, il y a toutes sortes d'excuses. Mais remplacer le service de Dieu par un rendez-vous fructueux dans une banque, il n'y aura aucune excuse. Beaucoup d'excuses. Je ne dis pas que toutes les excuses sont fausses. Je dis mais beaucoup d'excuses. Je suis pasteur. Je vois les gens, je vois les excuses. Et je sais que si on en avait remplacé le rendez-vous de Dieu, peu importe le rendez-vous, ça peut être... toutes sortes de services. Mais si on avait remplacé ça par un rendez-vous urgent pour voir un médecin, le rendez-vous serait honoré. Si on avait remplacé ça par un rendez-vous pour avoir un prêt à la banque important pour acheter une maison ou une voiture, il n'y aurait aucun problème. Au fait, les gens ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils ne savent pas avec Dieu à qui ils ont affaire. Beaucoup sont comme Ésaü. Quand ils voient le service auquel Dieu les appelle, ils disent, mais ça va servir. Oh, ils ne disent pas, ça va servir à quoi? Un chrétien ne peut pas dire ça. Mais au fond, c'est ça. Il n'y a pas un intérêt direct qui est... On peut toujours zapper ça. on peut toujours remplacer par autre chose. L'intérêt direct n'y est pas. Mais mettez quelque chose qui a intérêt direct à la même heure, en mettant le nom de Dieu dans l'affaire. Ils seront là! Mais quand il n'y a pas l'intérêt direct, Esaïe a dit, moi j'ai faim. J'ai faim, c'est ça qui compte. Comme on dit en français, ventre creux n'a point d'oreille. Hein. Le droit de naissance là, ça se mange. Allez, moi je vais bien manger mes lentilles là avec le pain, surtout un pain chaud. Mais bien aimé, tout ça va finir en une demi-journée. Mais la gloire de Dieu est éternelle. La gloire de Dieu est éternelle. Beaucoup de gens ne veulent même pas prier. Alors qu'on est, pendant un culte, hein, mais ils chantent par le cerveau. Ils ne veulent même pas faire un petit effort. Lorsqu'ils disent Dieu est tout puissant, ils ne veulent pas faire un petit effort pour réaliser cette puissance. La facilité. Je chante sans réfléchir. Je chante sans méditer. Ça demande un petit effort seulement de réaliser. Ah, vraiment, il est tout puissant. Pourquoi je m'inquiétais hier? Je continue à chanter. Non, ils ne veulent pas. Même ce petit effort-là, ils ne veulent pas. Ils ne prient pas. Beaucoup prient sans prier. Ils parlent. Il n'y a pas un petit effort pour dire, c'est vrai, il est comme ça. Du coup, demain, j'irai demander pardon à ma mère. C'est vrai. Dieu voit tout. Du coup, je ne peux plus continuer à faire ce que je fais là. Il n'y a pas ce petit effort. On dit. Au fait, on est dans l'activisme. On fait. Mais il n'y a pas le petit effort de dire, je vais plus loin. Je veux toucher Dieu dans ce qu'on fait aujourd'hui. Non. C'est le culte, allez, on y va. Mais il n'y a pas ce petit effort de dire, je cherche Dieu. Seigneur, je cherche. Je te cherche. Je ne veux pas juste assister à un culte. Je veux te rencontrer. Même pour dire cette phrase, vous savez, cette phrase-là, je l'ai dite en combien? Même pas en 10 secondes. Rien que cette phrase-là, le dire sincèrement. Il y en a pour beaucoup, c'est une charge. Et ça n'a pas d'utilité. Il se dit, ah ben, j'ai dit ça autrefois. Toujours, ça va servir à quoi? Alors qu'il nous a dit de prier sans cesse, de parler à Dieu, de discuter avec lui, de ne pas le laisser tranquille jusqu'à ce que nous voyons la gloire de Dieu. C'est écrit dans Ésaïe 62, ne le laissez pas tranquille. Non. Dès qu'on a prié quelques fois, après, bon, il n'y a pas eu la suite. Bon, on commence inconsciemment à dire, ça sert à quoi? Toujours le côté physique, ça sert à quoi? Non, ça sert à glorifier Dieu. Et Dieu ne donnera sa gloire à personne et il se glorifiera. Tous ceux qui le prient en vérité, il leur montrera qu'il est Dieu, qui ne prie pas en vain. Revenons au spirituel, bien-aimé. Revenons au spirituel. Regardons en toute chose le spirituel. En toute chose. Homme spirituel. En toute chose, il faut voir Dieu. En toute chose, regarder le spirituel. En toute chose, construire le spirituel. En tout. En tout. Et notre vie sera transformée. Nous vivrions réellement la vie de vierge sage. En tout temps, lui, il est là. En tout temps. Dieu veut ta maison, tu lui donnes ta maison. Qu'est-ce qu'un papier peint devant la gloire de Dieu? Qu'est-ce qu'une peinture? Qu'est-ce qu'un meuble? Au contraire, il faut être dans la joie. Lorsqu'à cause des frères et sœurs, ton meuble a été cassé, on dit, oh, j'ai endetté Dieu. Au lieu que... Vous savez que... Il y a des notations par rapport aux gens qui demandent les dettes. Des pays comme le Bangladesh, là, je crois que leur notation doit être D ou K, je ne sais pas quoi. Les pays comme la France, l'Angleterre, c'est A. C'est-à-dire que c'est des gens qui payent toujours bien quand ils prennent une dette. Et on note les pays comme ça. Donc maintenant, quand tu veux aller dans une banque en tant que pays, demander, prendre, faire un prêt, on regarde ta notation. Ça, c'est D-. Ah. Ces gens-là, ils ne payent pas. On ne les prête pas. Ou bien on les prête avec un taux fort parce qu'on n'est pas sûr. Maintenant, Dieu, lui, sa notation, hein, ce n'est même pas A, c'est avant A. Donc, il paye toujours. Ce qui te prend là, quand un chrétien a abîmé ta voiture, tu as endetté son papa. Or, lui, il paye avec assurance et plus, avec des intérêts qu'il rajoute, ce que tu sens que tu saches. Et il a dit dans sa parole, je ne serai le débiteur de personne. Donc, on voit des gens. Dieu demande sa voiture. Ça va servir à quoi? Je risque de perdre telle chose. Bien-aimé, est-ce qu'on sait à qui on a affaire? Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu savais à qui tu avais affaire, tu n'hésiterais même pas. Bien-aimé, je clôture avec ce passage de 1 Pierre, un passage triste. Je clôture avec ça. Mais Dieu veut nous faire du bien, mais ça peut commencer par une souffrance. 1 Pierre 4, 17 à 18. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Il dit, attention, le jugement commencera dans la maison de Dieu. Ah oui. Maintenant, je tiens quand même à dire, c'est le jugement, pas forcément final, mais il y aura un jugement. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens meurent dans la médiocrité totale. Je parle de la médiocrité spirituelle, pas médiocrité physique, c'est importe peu pour Dieu. C'est la médiocrité totale, c'est-à-dire ils ne meurent pas en chrétiens courageux, forts. Ils sont juste sauvés difficilement. C'est ça qui est écrit. Hein. Si le juste se sauve avec peine, ils vont être sauvés avec peine. C'est-à-dire, ils auront un moment, voilà, de difficulté à vivre le salut. C'est ça qui va se faire. Il y aura un jugement. Dans la maison de Dieu. Parce que Dieu ne va pas laisser quelqu'un aller au ciel comme ça. Il faut un jugement pour juger que tu es charnel. Même peut-être à 5 minutes de la fin, c'est là que tu deviens spirituel et tu vas au ciel. Mais on ne peut pas aller comme ça. Il y aura des jugements d'avant. Soit il y en a qui rateront l'enlèvement, soit ils finiront mal leur vie chrétienne. C'est pourquoi on voit beaucoup de chrétiens attraper les maladies d'Égypte. Parce qu'il va y avoir un jugement dans la maison de Dieu, des pasteurs qui finissent leur vie dans l'Alzheimer. Il y a des jugements dans la maison de Dieu parce qu'ils ont négligé d'être à 100% pour le Seigneur. Donc il va y avoir un jugement. Le juste va se sauver avec peine. Alors qu'on peut se sauver sans peine par la grâce de Dieu. Dans la gloire. Même s'il y a les souffrances humaines, mais dans la gloire. C'est pour nous dire, bien-aimés, ou c'est la vie de Christ que nous voulons, ou laissons tomber. Nous devons choisir. La vie éternelle, ce n'est pas une vie inventée avec un ticket. Non, c'est la vie de Jésus qui te donne. Ça veut dire que cette vie-là commençant sur terre, tu vivras la vie terrestre de Christ. Jusqu'au moment de la résurrection, tu vis aussi sa vie. Ça continue. Donc, c'est pourquoi il a dit que celui qui croit en lui ne mourra pas. Parce qu'il y a deux versets qu'il dit. Il dit, celui qui croit en lui ne mourra pas. Et ailleurs, il dit, celui qui croit en lui, il vivra même s'il meurt. Donc, il mourra physiquement. Mais spirituellement, il ne meurt plus puisque lui, il a déjà reçu la vie de Christ. C'est une continuité. C'est le corps qui meurt, mais c'est la vie de Christ. On ne lui donnera pas une deuxième fois à sa mort. Il l'a déjà maintenant. C'est ça la vie éternelle. Alors, observons la vie de Christ. C'est cette vie-là que Dieu attend de nous. Mais chacun maintenant, à son niveau. Mais on donne sa vie. À 100%. On ne fait pas comme Ésaü, qui est attaché au physique, au résultat. Il y a des gens qui disent, mais on va dépenser 1 million. Mais s'il n'y a que 3 sauvés, 1 million pour 3 sauvés. Il y a même des chrétiens qui font la comptabilité. Donc une âme, ça nous a coûté 300 000 dollars. Alors que tel système, on a dépensé 1 million, il y a eu 50 000 sauvés. Ah là, c'est bon, une âme nous a coûté peu. Or, bien aimé, réfléchissez, selon le ciel, une âme, ça vaut combien? Ah! Au lieu que ces gens-là se réjouissent en disant, on a dépensé 1 million, il n'y a eu que 3 sauvés, et ils sont mécontents, ils disent, on a dépensé beaucoup, il n'y a eu que 3 sauvés, alors que quelqu'un d'autre a dépensé qu'un million, il y a eu 50 000 sauvés. Ah non, ça veut dire que, moi, pour moi, quand tu as, si je suis la logique biblique, il y a de la joie au ciel lorsque une seule âme qui est sauvée, donc il y a une fête au ciel. Vous savez, c'est quoi les ciels, hein? C'est des myriades et des myriades d'anges. Et c'est le Dieu Tout-Puissant qui est là, qui fête pour une âme. Alors, qu'on dépense 1 million pour 3 âmes. Mais c'est la logique du ciel. Mais non. Ah non, 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 non. Mathématiquement, c'est pas beau. Si on est vraiment puissant, il faut qu'on dépense peu pour beaucoup d'âmes. C'est faux. Ça, c'est la logique d'Ésaü. Revenons à la logique spirituelle. Voilà. Quelqu'un qui regarde comment Dieu réfléchit. C'est ça l'homme spirituel. L'homme spirituel ne cherche pas le résultat, mais cherche à obéir à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus. Amen.